Telles étaient les réflexions qui m'occupaient quand je suis parti au mois d'août pour une tournée de 17 jours en Afrique. En Afrique du Sud, j'ai pris le ferry pour Robben Island et j'ai pénétré dans la minuscule cellule où Nelson Mandela avait passé la plus grande partie de ses 27 années d'incarcération, sans jamais perdre l'espoir que le changement surviendrait un jour. J'ai rencontré des membres de la Cour suprême sud-africaine, je me suis entretenu avec des médecins dans une clinique accueillant des patients atteints du sida, et j'ai passé quelques moments en compagnie de l'archevêque Desmond Tutu, dont j'avais déjà eu l'occasion d'apprécier l'esprit plein d'entrain lors de ses visites à Washington. « Alors c'est vrai, Barack ?» m'a-t-il dit avec un sourire mutin. « Tu vas devenir notre premier président africain des États-Unis ? Ah, ça nous rendrait tous très fiers !» Puis je me suis envolé pour Nairobi, où Michel et les filles, accompagnés d'Anita Blanchard et de ses enfants, m'ont rejoint. Dans le siège de la presse locale qui consacrait l'intégralité de ses éditions à notre visite, les Kenyans nous ont réservé un accueil délirant. À notre arrivée à Kibera, l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique, des milliers de personnes se pressaient le long des chemins sinueux de terre rouge et scandaient mon nom. Ma demi-sœur, Aoma, avait eu l'idée attentionnée d'organiser un petit voyage en famille dans la province de Nyanza, afin que nous montrions à Sacha et à Malia la terre ancestrale de notre père, dans l'ouest du pays. Là-bas, nous avons eu la surprise d'être accueillis par une foule immense, alignée sur plusieurs kilomètres au bord de la route, qui nous faisait de grands signes. Et lorsque Michel et moi nous sommes arrêtés dans un dispensaire ambulant pour passer en public un test VIH, afin de démontrer que ce dernier ne présentait aucun danger, les gens ont fait cercle par milliers autour de notre véhicule, ce qui a valu une belle frayeur aux agents de sécurité du corps diplomatique qui nous escortait. Ce n'est que lorsque nous sommes partis en safari et que nous nous sommes arrêtés en pleine savane, au milieu des lions et des gnous, que nous avons pu échapper à toute cette agitation. « Je te jure, Barack, ces gens croient que tu es déjà président !» a dit Anita un soir sur le ton de la plaisanterie. « Promets-moi juste de me garder une place sur Air Force One, d'accord ?» Ni Michel ni moi n'avons ri. Tandis que la famille rentrait à Chicago, j'ai continué mon périple. Je me suis rendu à la frontière entre le Kenya et la Somalie, où j'ai été briefé sur une opération menée conjointement par les forces américaines et kenyanes pour lutter contre le groupe terroriste Al-Shabaab. J'ai pris un hélicoptère à Djibouti pour rejoindre l'Éthiopie, où des troupes de l'armée américaine étaient venues prêter main forte aux efforts de reconstruction au lendemain d'une inondation. Et enfin, je suis allé au Tchad, visiter un camp de réfugiés du Darfour. À chacune de mes étapes, je voyais des hommes et des femmes œuvrer avec héroïsme, dans des circonstances effroyables. À chacune de mes étapes, on me répétait que l'Amérique aurait pu faire beaucoup plus pour aider à soulager la souffrance de ses populations. Et à chacune de mes étapes, je me demandais si j'étais candidat à la présidentielle. Quelques jours à peine après mon retour aux États-Unis, je suis allé dans l'Iowa prononcer le discours inaugural du Steak Fry, un grand barbecue public organisé chaque année par le sénateur Tom Harkin. Ce rituel annuel revêtait une importance particulière à l'approche de la course à la présidence, dans la mesure où la tradition veut que l'Iowa soit toujours le premier État à voter lors des primaires. J'avais accepté cette invitation plusieurs mois auparavant. Tom m'avait demandé de prendre la parole précisément pour éviter de devoir choisir entre tous les aspirants candidats qui convoitaient cet honneur. Mais ma présence à la tribune ne faisait à présent que redoubler les spéculations. Alors que nous quittions les lieux après mon discours, Steve Hildebrand, ancien directeur politique du comité de campagne sénatorial démocrate et vieux routier de l'Iowa que Pete avait chargé de m'escorter, m'a pris à part. « Je n'ai jamais vu un enthousiasme pareil, » m'a dit Steve. « Tu peux remporter l'Iowa, Barack, je le sens. Et si tu remportes l'Iowa, tu peux décrocher la nomination. » J'avais parfois l'impression d'être pris dans une lame de fond, ballotté au gré des attentes d'autrui, alors que je n'avais même pas encore clairement défini les miennes. La température est encore montée d'un cran un mois plus tard, deux semaines à peine avant les élections de mi-mandat, avec la publication de mon deuxième livre. J'y avais travaillé toute l'année, le soir dans mon appartement à Washington et le week-end à Chicago quand Michel et les filles dormaient. Même à Djibouti, où je m'étais échiné pendant plusieurs heures à essayer de faxer à mon éditrice quelques pages de mon jeu d'épreuves corrigées. Je n'avais jamais eu l'intention de faire de ce livre un manifeste de campagne. Je voulais tout simplement exposer mes idées sur l'état actuel de la politique américaine d'une manière intéressante et vendre suffisamment d'exemplaires pour justifier l'avance conséquente que j'avais touchée. Mais ce n'est pas comme ça qu'il a été reçu par la presse politique et par les lecteurs. Faire la promotion du livre impliquait que je sois en permanence sur les plateaux de télévision et dans les studios de radio. Et si l'on ajoutait à cela la très médiatique tournée dans laquelle je m'étais lancé pour soutenir les candidats démocrates aux législatives, le fait est que je ressemblais moi-même de plus en plus à un candidat. Un jour, alors que nous rentrions en voiture de Philadelphie à Washington, où je devais participer à l'émission politique Meet the Press le lendemain matin, Gibbs et Axe, ainsi que le collaborateur de ce dernier, David Plouf, m'ont demandé ce que je comptais répondre quand le présentateur Tim Russert, inévitablement, essaierait de me tirer les vers du nez. « Il va te ressortir la vieille vidéo », a expliqué Axe, « celle où tu affirmes sans la moindre équivoque que tu ne seras pas candidat à la présidentielle de 2008. » Pendant quelques minutes, je les ai laissés tous les trois passer en revue toutes les parades possibles pour contourner la question, puis je les ai interrompus. Et si je disais tout simplement la vérité? Pourquoi je ne pourrais pas dire que je n'avais aucune intention de me présenter il y a 2 ans, mais que les circonstances ont changé, et mon point de vue aussi, et que je compte me pencher sérieusement sur la question après les élections de mi-mandat? Cette idée leur a plu, et ils ont admis que le fait qu'une réponse aussi franche paraisse originale en disait long sur la bizarrerie du monde politique. Gibbs m'a conseillé par ailleurs d'avertir Michel, pressentant que la moindre suggestion de ma part laissant directement entendre que je pourrais me lancer dans la course allait aussitôt déclencher une hystérie médiatique. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ma déclaration devant les caméras de Meet the Press a fait les gros titres et la une des infos du soir. Sur Internet, une pétition a été lancée en faveur de ma candidature, baptisée « Nominé Obama ». Et a presque aussitôt récolté des milliers de signatures. Les chroniqueurs politiques de la presse nationale, y compris dans les rangs conservateurs, se sont tous fendus d'une tribune pour m'exhorter à sauter le pas. Et le magazine Time a fait sa couverture sur un article intitulé « Pourquoi Obama pourrait être le prochain président ?». Mais apparemment, tout le monde ne misait pas autant sur mes chances. Gibbs nous a raconté que lorsqu'il s'était arrêté à un kiosque sur Michigan Avenue pour acheter un exemplaire du Time, le vendeur d'origine indienne avait jeté un coup d'œil sur ma photo en couverture et lâché pour tout commentaire « Putain, jamais de la vie !» Cette anecdote nous a bien fait rire. Et tandis que les spéculations ne cessaient de s'amplifier autour de ma candidature, Gibbs et moi répétions cette phrase comme une incantation, un mantra qui nous permettait de garder les pieds sur terre et de tenir à distance l'impression de plus en plus forte que nous commencions à être dépassés par les événements. La foule devant laquelle j'ai pris la parole lors du dernier meeting auquel j'ai participé avant les élections de mi-mandat, un rassemblement nocturne à Iowa City pour soutenir le candidat démocrate au poste de gouverneur, était particulièrement déchaînée. Debout sur l'estrade, face à ces milliers de gens réunis dont le souffle montait comme un immense banc de brume dans le faisceau des projecteurs, tous ces visages levés sur lesquels se lisaient l'espoir et l'impatience, ces acclamations sous lesquelles se noyait ma voix épuisée, j'ai eu l'impression que j'étais en train de regarder un film et que cette silhouette sur la scène n'était pas la mienne. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, toutes les lumières étaient éteintes dans la maison et Michel dormait déjà. J'ai pris une douche, jeté un rapide coup d'œil à la pile de courrier, puis je me suis glissé sous les couvertures et j'ai commencé à m'assoupir. Dans cet étrange entre-deux qui sépare la veille du sommeil, je me suis vu franchir le seuil d'une espèce de portail et pénétrer dans un endroit lumineux, froid et étouffant, un lieu désert coupé du reste du monde. Et derrière moi, montant de l'obscurité, j'ai entendu une voix, limpide et tranchante, comme si quelqu'un se trouvait juste à côté de moi, qui répétait le même mot, encore et encore. Non. 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 Je me suis redressé d'un bond dans mon lit, le cœur battant à toute vitesse, et je suis descendu me servir un verre. Je suis resté assis dans le noir, une vodka à la main, les nerfs en pelote, le cerveau tout à coup en surchauffe. J'avais peur, je m'en rendais soudain compte, non pas à l'idée de me lancer dans un projet absurde, de courir le risque de me retrouver coincé au Sénat, ni même d'échouer à une élection présidentielle. J'avais peur parce que je venais de comprendre que je pouvais gagner. Surfant sur une vague de mécontentement à l'égard de l'administration Bush et de la guerre en Irak, les démocrates ont remporté la quasi-intégralité des batailles clés en novembre et pris le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat. Même si nous avions travaillé dur pour y contribuer, mon équipe et moi n'avions pas le temps de célébrer cette victoire. Dès le lendemain, en effet, nous commencions à esquisser les plans d'un chemin possible vers la Maison-Blanche. Notre spécialiste des sondages, Paul Arstad, a regardé les chiffres et conclu que je me trouvais d'ores et déjà dans le haut du panier des candidats. Nous avons discuté du calendrier des primaires et des caucus. Pour qu'une campagne aussi téméraire que la mienne aboutisse, nous étions conscients que tout dépendait d'une victoire dans les États qui votaient en premier, en particulier dans l'Iowa. Nous avons tracé les contours du budget le plus réaliste possible et réfléchi aux moyens de lever les centaines de millions de dollars qu'il nous faudrait rien que pour obtenir la nomination démocrate. Pete et Alissa ont élaboré un emploi du temps qui me permettait de concilier mes déplacements de campagne avec mes devoirs au Sénat. Axelrod a rédigé un mémo décrivant dans les grandes lignes les thèmes d'une campagne potentielle et la façon dont il faudrait nous y prendre, compte tenu du mépris violent des électeurs à l'égard de Washington, pour que mon message, axé sur le changement, compense mon manque patent d'expérience. Même si nous disposions de très peu de temps, tout le monde s'est acquitté de ses tâches avec soin et diligence. J'étais tout particulièrement impressionné par David Plouffe. La petite quarantaine, élancée, intense, les traits au couteau, d'un tempérament à la fois sec et décontracté, il avait quitté les bancs de la fac pour suivre plusieurs campagnes démocrates et avait également dirigé le comité de campagne législative démocrate avant de rejoindre le cabinet de conseil d'Axelrod. Je l'ai écouté un jour expliquer comment nous pourrions impulser un mouvement de mobilisation citoyenne état par état en mettant à profit à la fois notre base de bénévoles et les ressources d'Internet. Et j'ai confié par la suite à Pete que si nous devions procéder de cette façon, alors Plouffe semblait tout indiqué pour endosser le rôle de directeur de campagne. « Il est excellent », a acquiescé Pete, « mais ça ne va pas forcément être évident de le convaincre. C'est un jeune père de famille. » C'est l'un des aspects les plus frappants qui ressortait de nos discussions pendant ce premier mois. Toute l'équipe manifestait une ambivalence qui n'avait rien à envier à la mienne. Et pas seulement parce que ma candidature paraissait encore improbable. Plouffe et Axelrod me l'affirmaient tous les deux sans détour. Pour battre Hillary Clinton, une marque nationale, il nous faudrait sortir, pour ainsi dire, le jeu parfait. Non, ce qui les freinait dans leur enthousiasme, c'est que, contrairement à moi, ils avaient déjà été aux premières loges d'une campagne présidentielle. Ils savaient que c'était une entreprise harassante. Ils étaient conscients du prix à payer que cela représenterait, non seulement pour moi et ma famille, mais également pour eux-mêmes et leur propre famille. Nous serions constamment sur la route. La presse nous scruterait à la loupe et se montrerait sans pitié, une coloscopie non-stop, comme disait Gibbs, je crois. Je verrais très peu Michel et les filles pendant au moins une année entière. Deux, si nous avions l'heureuse surprise de remporter la primaire. « Je ne vais pas te mentir, Barack », m'a dit Axe à la fin d'une réunion. « C'est une aventure qui peut être exaltante, mais la plupart du temps, c'est un calvaire. Comme un test d'effort, un électrocardiogramme qui te lessive jusqu'à la moelle. Et tu as beau être bourré de talent, je ne sais pas comment tu vas réagir. Et toi non plus. C'est un truc tellement dingue, tellement crasse et brutal, il faut forcément être un peu tordu pour tenir la distance et gagner. Et je ne sais pas si tu as ça en toi, cette avidité. Je n'ai pas l'impression que tu serais foncièrement malheureux si tu devais ne jamais devenir président. » C'est vrai, ai-je admis. Je sais que c'est vrai, a dit Axe. Et en tant qu'être humain, c'est une force. Mais pour un candidat, c'est une faiblesse. Tu es peut-être un petit peu trop normal, trop équilibré pour vouloir devenir président. Et même si le consultant politique que je suis trouverait ça fabuleux que tu te lances, l'ami que je suis également pour toi en viendrait presque à espérer que tu ne le fasses pas. De son côté, Michelle tentait elle aussi d'y voir clair dans les sentiments que lui inspirait toute cette histoire. Elle assistait en silence à nos réunions de travail, posait simplement de temps à autre une question sur le calendrier, sur ce qu'on attendrait d'elle, sur ce que ça allait signifier pour les filles. Peu à peu, son hostilité à l'idée de ma candidature s'était estompée. Entendre la vérité brute sur ce qu'impliquait une campagne n'y était peut-être pas pour rien. Ses pires craintes devenaient concrètes, précises, et donc plus faciles à affronter. Peut-être était-ce grâce aux conversations qu'elle avait eues avec Valérie et Marty, deux de nos plus fidèles amis, des gens en qui elle avait toute confiance, ou grâce à l'intervention de son frère, Craig, lui qui avait toujours poursuivi ses propres rêves improbables, celui de devenir joueur de basket professionnel d'abord, puis entraîneur, même s'il avait dû pour cela tourner le dos à une carrière lucrative dans l'univers de la banque. « Elle a peur, c'est tout », m'a-t-il dit un après-midi où nous nous étions retrouvés pour boire une bière. Puis il m'a parlé de l'époque où Michel et sa mère venaient le voir jouer au basket au lycée. Chaque fois que le score était trop serré, elle quittait les tribunes pour aller l'attendre dans le tunnel des vestiaires, toutes les deux incapables de supporter la tension. « Elle ne voulait pas me voir perdre », a dit Craig. « Elle ne voulait pas me voir vexé ou déçu. Je devais leur expliquer que ça faisait partie de la compétition. » Pour sa part, Il était favorable à ce que je tente ma chance, et il m'a confié qu'il comptait en discuter avec sa sœur. Je veux qu'elle voie les choses sous un autre angle. Quand l'opportunité se présente de jouer à ce niveau-là, on ne la laisse pas passer. Un jour de décembre, juste avant nos vacances de Noël à Hawaï, notre équipe s'est réunie une dernière fois pour décider si oui ou non nous allions nous lancer. Michel a patiemment enduré une heure de discussion sur les effectifs et la logistique nécessaires à la préparation d'une éventuelle annonce de candidature, avant de nous interrompre pour poser une question cruciale. Tu as dit qu'il y avait beaucoup d'autres démocrates capables de remporter l'élection et de diriger le pays. Tu m'as dit que la seule raison valable pour que tu te présentes, ce serait ta capacité à proposer quelque chose que les autres n'ont pas. Sinon, ça ne vaudrait pas le coup, c'est bien ça? J'ai acquiescé. Alors voici ma question, Barack. Pourquoi toi? Pourquoi est-ce que toi, tu veux devenir président? Nous nous sommes regardés, chacun à un bout de la table. L'espace d'un instant, c'était comme si nous étions soudain seuls dans cette pièce. Je me suis remémoré tout à coup le jour de notre rencontre, 17 ans plus tôt. Moi qui arrive en retard à son bureau, un peu mouillé à cause de la pluie. Michel qui se lève, si belle et pleine d'aplomb dans sa jupe et son chemisier d'avocate. Les quelques mots que nous avons échangés, tout de suite à l'aise l'un avec l'autre. J'avais alors décelé, derrière ses grands yeux sombres, une vulnérabilité dont je devinais qu'elle la laissait rarement transparaître. J'avais compris dès cette première rencontre qu'elle était unique, que j'avais besoin de mieux la connaître, que je me trouvais en face d'une femme dont je pourrais tomber amoureux. Quelle chance j'avais eue, me disais-je. Barack ? Je suis sorti de ma rêverie. Oui, ai-je dit. Pourquoi moi ? J'ai évoqué plusieurs raisons dont nous avions déjà discuté ensemble. Ma capacité à initier une nouvelle forme de pratique politique, ou à pousser une nouvelle génération à s'engager, ou à rassembler le pays par-delà ses divisions comme aucun des autres candidats ne pouvait le faire. Mais bon, qui sait ? Ai-je ajouté en regardant tout le monde autour de la table. Rien ne garantit que nous y arrivions, mais je sais une chose. Je sais que le jour où je lèverai la main droite pour prêter serment en tant que nouveau président des États-Unis, le monde commencera à porter un regard différent sur l'Amérique. Je sais que tous les gamins de ce pays, les gamins noirs, les gamins latinos, tous les gamins qui ont l'impression de ne pas être à leur place ici, porteront eux aussi un regard différent sur eux-mêmes, leur horizon soudain dégagé, le champ des possibles soudain ouvert devant eux. Et rien que pour ça, ça en vaudrait la peine. Silence. Marty souriait, Valérie avait les larmes aux yeux. Je voyais certains membres de l'équipe en train d'imaginer la scène, l'investiture du premier président afro-américain de toute l'histoire des États-Unis. Michel m'a lancé un regard qui m'a paru durer une éternité. « Eh bien, mon chéri, » a-t-elle fini par dire, « c'était pas mal comme réponse. » Tout le monde s'est mis à rire. Puis la réunion a repris son cours. Au fil des années suivantes, ceux qui étaient présents autour de la table ce jour-là y feraient parfois référence, ayant perçu que ma réponse à la question de Michel avait été l'expression spontanée d'une foi partagée, le véritable élément déclencheur d'une aventure qui allait se révéler aussi longue et houleuse qu'improbable. Ils s'en souviendraient le jour où ils verraient un petit garçon tendre le bras pour me toucher les cheveux dans le bureau ovale, ou un enseignant nous dire que les gamins de son école dans un quartier défavorisé en centre-ville s'était mis à travailler plus dur après mon élection. Et c'est vrai. En répondant ainsi à la question de Michel, je définissais déjà les contours de l'espoir qui était alors le mien. L'espoir de mener une campagne dont la crédibilité pourrait tout du moins débarrasser l'Amérique des vestiges de son passé racial. Mais en mon fort intérieur, je savais que cet objectif recouvrait aussi une dimension plus personnelle. Si nous gagnions, songeais-je, cela voudrait dire que ma victoire à l'élection sénatoriale n'avait pas été qu'un coup de chance. Si nous gagnions, cela voudrait dire que ce qui m'avait poussé à me lancer en politique ne relevait pas d'un rêve utopique, que l'Amérique en laquelle je croyais était possible, que la démocratie en laquelle je croyais était à portée de main. Si nous gagnions, cela voudrait dire que je n'étais pas le seul à croire que le monde n'était pas nécessairement un endroit inhospitalier et impitoyable, où les forts écrasaient les faibles, où nous étions éternellement condamnés à nous organiser en clans et en tribus, à batailler contre des puissances inconnues et à nous blottir craintivement face aux ténèbres. Si ces croyances prenaient corps dans la réalité, alors j'aurais trouvé un sens à ma vie, et je pourrais transmettre cette promesse, cette vision du monde, à mes enfants. J'avais fait un pari il y a très longtemps, et je me trouvais à présent à la croisée des chemins. J'étais sur le point de franchir une frontière invisible, qu'allait changer de manière inexorable le cours de mon existence, dans des proportions qu'il m'était encore impossible d'imaginer, et qui ne me plairaient peut-être pas. Mais arrêter maintenant, renoncer maintenant, baisser les bras maintenant, c'était inacceptable. Il fallait que je voie comment la partie allait se jouer.